Bonjour tout le monde. Vraiment content d'être avec vous encore ce matin pour faire la suite. Je commence à y prendre goût. Merci à l'équipe de louanges. En fait, l'équipe de louanges a résumé ce que je vais vous partager ce matin. Merci pour les choix de chants. Je ne sais pas qui a choisi les chants, mais merci, vraiment des beaux chants. Et puis, vous savez, donc, on veut continuer ce qu'on a fait la semaine passée. Et vous savez, si j'ai fait un montage comme ça, c'est... Quand des gens me demandaient, je répète un peu certaines choses de la semaine passée, mais c'est quoi le message de la Bible au juste? Et des gens, vous savez, le message de la Bible, c'est plus... C'est pas plus. Les gens pensent ou voient ça comme un message où c'est une série de règles à suivre ou une série de restrictions contraignantes que Dieu veut nous imposer, mais c'est pas ça le message de la Bible. C'est un message de vie, un message d'espoir, un message de liberté, qui nous explique qui est Dieu, qui est l'homme, pourquoi la situation sur la terre est comme ça aujourd'hui et comment la délivrance et la liberté peuvent venir. Et si j'ai fait le montage comme ça, comme je l'ai dit la semaine passée, c'est un montage que je faisais sur une napkin quand quelqu'un dans un restaurant, je faisais une rencontre, puis je disais, c'est quoi le message de la Bible, puis je dessinais ça. Puis on est, j'ai vu que ça avait un impact. Parce que, saviez-vous que 70 % des gens, ça c'était vrai il y a à peu près 10-15 ans, c'est peut-être plus maintenant, sont plus visuels qu'auditif. Donc, ils ont besoin de voir pour assimiler les choses. De là, mon intention de monter cette présentation visuelle. Donc, ça se passe beaucoup à l'écran. Assurez-vous de bien voir l'écran, tout le monde. Je ne veux pas cacher personne parce que ça se passe encore beaucoup à l'écran. Donc, ce que je veux faire dans une première étape, c'est un résumé de la semaine passée, en 5-6 minutes à peu près, et on va sauter plusieurs choses, mais juste les grandes lignes, parce que c'est à partir de ça qu'on va construire. Quel est ce message de la Bible que Dieu veut nous faire comprendre, nous faire savoir, qui amène la liberté? Et Paul dit à Timothée, saisis la vie éternelle, approprie-toi-la, comprends-la, saisis-la pour la vivre pleinement. Et c'est moi qui vous apporte ces mots-là aujourd'hui, mais je suis à la même place que vous autres. On est tous à la même place. On apprend à saisir de plus en plus comment vivre et saisir cette vie que Dieu a pour nous et grandir à comprendre de plus en plus ce message profond, libérateur de l'Évangile. Donc, la semaine passée, on a dit, on a commencé par Dieu. Et Dieu a créé la vie et a créé Adam et la vie. Et c'est le bios qui était utilisé, le mot bios. Donc, d'où on venait le mot biologie. Et Dieu a fait quelque chose de particulier à ce moment-là, c'est qu'il a mis la vie de Dieu en Adam. Et Adam est devenu de même nature que Dieu. Adam n'est pas devenu Dieu. Voyez-vous bien l'écran? J'ai l'impression de cacher bien du monde. Je vais me tasser un petit peu. Et Adam est devenu de même nature que Dieu. Il y avait cette vie de Dieu en lui. Il était à l'image de Dieu. Et d'ailleurs, la Bible nous fait savoir tout de suite au début de l'histoire de Dieu, au début de la révélation de Dieu, que l'homme et la femme ont été créés à son image, à l'image de Dieu. Ils n'étaient pas Dieu, mais ils étaient à l'image de Dieu. Ils étaient capables. Je pense que les batteries sont finies dans le Luc. Y a-t-il d'autres batteries dans le... Il lâche des fois le micro, je pense, l'impression. Ça va? OK. Si ça manque, vous me le direz. Donc, Adam et Ève étaient créés à l'image de Dieu. Cette image de Dieu-là est importante à comprendre. Il n'était pas Dieu. Mais il y avait cette capacité de créer, d'inventer, de se reproduire. Il y avait cette capacité... Vous voyez, ils viennent de partir, là. Peut-être trouver un autre micro à fil ou quelque chose. Ça va être comme ça tout le long. Il part, hein? Ouais. OK. As-tu un autre micro que je peux utiliser, Luc? Ou quelqu'un? Avec Phil, pas de problème. Donc, l'homme a été créé à l'image de Dieu avec beaucoup de capacités, comme d'inventer des choses, de créer des choses, de faire des choix, de prendre des décisions, d'évaluer, juger certaines choses. Est-ce que c'est bon pour moi ou pas bon? OK. Moi, je veux le changer parce que je ne m'entends pas. Et puis, je peux-tu prendre un qui est là ici, Luc? Juste celui-là ici, peut-être? Okay, ça ne sera pas long. Ça va jusque-là? OK. La technique nous fait défaut des fois. Mais on va continuer quand même. Cette vie-là que l'être humain avait en lui emmenait plein de privilèges, une identité claire sur qui il est. Il est à l'image de Dieu. Vous savez, l'histoire, là, ceux qui connaissent l'histoire, Dieu a fait passer tous les animaux de la création et l'homme ne s'est pas identifié à lui. Et il a été créé vraiment à l'image de Dieu.
1, 2, 1, 2.
Excellent.
Ça va? OK. Est-ce que ça marche? Vous m'entendez? OK. C'est pas le même son, hein? C'est pas grave. Ça va aller. Donc, ces privilèges-là venaient de cette vie-là, de cette union avec Dieu, de cette image de Dieu qui est en lui. Une claire identité, un sens dans sa vie. Il était créé pour être en relation avec Dieu. Il savait que Dieu se souciait de son bien-être, de son amour, de sa joie, de sa valeur. Dieu l'a mis en autorité sur toute la création. Il se savait aimé et il se savait sécure parce que Dieu pourvoyait à ses besoins de nourriture, de bien-être. Et il y avait une relation avec Dieu. Tout ça, c'est dû à la relation qu'il avait avec Dieu. Il y avait tout pleinement en Dieu. Mais Dieu a aussi mis des limites. Et l'homme s'est rebellé. La limite que Dieu a mise, il dit, écoute, je t'ai créé avec tout, tu as tout ça, tu es comblé, tu as tout pleinement en moi. La seule chose que tu n'as pas, c'est la capacité de discerner ce qui est la juste chose et ce qui n'est pas la juste chose, le bien ou le mal. Tu n'as pas cette capacité-là parce que tu ne connais pas le cœur des autres. Moi, je le connais. Tu ne connais pas l'avenir. Moi, je le connais. Il y a plein de choses que tu ne sais pas. Donc, pour ça, il va falloir que tu t'appuies sur moi, tu dépendes de moi. Je suis celui qui va te diriger pour comprendre bien le bien et le mal. Le jour où tu vas vouloir toi-même choisir ce qui est bien et mal et définir ce qui est bien et mal, tu ne pourras pas survivre à ça. Tu ne pourras pas survivre à ça et ça va être la mort. Et l'être humain nous dit déjà au début, dans le chapitre 3 de Genèse, que l'être humain a dit, « Non, moi, je ne veux pas ces limites-là. Moi, je veux être comme toi. » Il a cru un mensonge qu'on lui a dit que si tu choisis toi-même ce qui est bien et mal, toi-même tu décides ce qui est bien et mal, tu vas devenir comme Dieu. Et Dieu, ce n'est pas vraiment ton bien qu'il veut. Et l'être humain a cru le mensonge. Il a cessé de croire qu'il avait tout pleinement en Dieu. Cette relation a été brisée, comme Dieu l'avait dit, et Ève et Adam ont perdu cette image de Dieu en eux. Cette image de Dieu, cette nature de Dieu en eux qui ont perdu, ils ont commencé à vivre une vie sans Dieu sur terre. Ce que la Bible appelle un monde de ténèbres. Un monde où on voit plus clair, notre identité n'est plus claire, où trouver la joie, c'est pas clair. Notre perception de Dieu n'est plus claire, notre perception des autres et de nous-mêmes n'est plus claire. L'être humain a commencé, et ces privilèges-là sont devenus des besoins que l'être humain essaye de combler. Maintenant, la race humaine s'est multipliée sur Terre, et principalement avec cette vie biologique et un petit peu de cette nuance de cette vie de Dieu en lui, assez pour se poser la question, il doit avoir quelque chose d'autre. Il doit avoir quelqu'un à quelque part qui a une réponse. Il doit avoir un Dieu à quelque part. L'homme s'est mis à chercher autour pour combler ces besoins-là, dans les moyens et les ressources qu'il avait, dans une vie sans Dieu. La Bible appelle ça la nature humaine. Ou elle va utiliser d'autres mots, elle va utiliser des mots comme l'être naturel, l'être charnel, le vieil homme, l'homme sans Dieu, cherche autour, dans les moyens qu'on a autour de nous, pour combler ces besoins profonds-là d'identité, de sécurité, d'amour, d'être aimé, de sentir qu'on a de la valeur, qu'on a une estime. Tous ont péché, ils sont privés de la présence de Dieu. On a défini ce que c'était le péché. Ça veut dire chercher à un endroit ce qu'on va trouver à un autre. Manquer la cible, manquer le but. Chercher ici ce qu'on va trouver là. Et tant qu'on cherche ici, ça va nous mener à la mort. Tous ont péché, ils sont privés de la présence de Dieu. Dieu est là, mais les gens essayent de rejoindre Dieu par leurs propres moyens. Mais ils ne peuvent pas arriver à cause du péché, à cause qu'ils cherchent toujours la mauvaise place. Qu'est-ce que je peux faire? Si je mène une bonne vie, si je fais des bonnes actions, je vais pouvoir atteindre Dieu. Dieu dit non, tu ne peux pas. Tous ont péché et on est séparés de Dieu à cause de ça. Dieu a donné les commandements. Des commandements qui nous définissent le cœur de Dieu. Comment Dieu veut qu'on vive avec lui, comment vivre les uns avec les autres. Mais les commandements-là ne sont pas là pour nous donner la vie. Les commandements n'existent pas pour nous apporter la vie. Cette vie qu'on avait de Dieu, les commandements, ce n'est pas leur but. Les commandements sont là pour nous montrer qu'on n'est pas capable, qu'on n'a pas en nous ce qu'il faut pour vivre cette vie que Dieu veut là. Et on a donné l'exemple on se croit correct, qu'on vit une vie juste, mais quand on regarde les commandements de Dieu, ça nous montre qu'on est complètement à côté. Comme un rayon de lumière qui rentre dans une pièce qu'on pensait très propre, puis on voit plein de poussière dans le rayon de lumière. Donc les commandements ne sont pas là pour nous apporter de la vie. Et ça, c'est la mauvaise nouvelle, il n'y a pas d'issue. Paul disait, « Qui pourrait me délivrer de cette impasse qui mène à la mort? Je suis sans issue. » Mais la Bible, c'est une bonne nouvelle. Et tout de suite après, il nous dit, « Mais par Jésus-Christ, c'est possible. »
Et vous souvenez, on a défini pourquoi Jésus-Christ, qu'est-ce que Jésus-Christ vient faire là-dedans. Et vous regardez les bonhommes en bas, ici, on reprend, c'est Marie et Joseph. Si Marie et Joseph avaient eu un enfant, il aurait été de même nature que le reste de la création. Il a fallu que Dieu intervienne dans la naissance, dans la conception de cet enfant-là. Et c'est incroyable, c'est le miracle, la naissance de Jésus. Donc Dieu est intervenu dans la naissance de Jésus, comme ça, par son esprit. Et Jésus est né de même nature que Dieu, parce que Dieu est intervenu. Dieu est intervenu. Jésus était de même essence que Dieu. Mais la Bible va plus loin que ça pour définir, nous faire comprendre qui était Jésus vraiment. En lui était la vie, mais il est la vie. Il est le chemin. Il est la vérité. La Bible nous montre que Jésus est pleinement Dieu. Et c'est là toute la beauté du message de la Bible. Que Dieu est venu prendre une forme humaine, comme un serviteur, comme l'un d'entre nous, comme un être humain. Il a passé par le même chemin que chacun de nous pour naître, avec les mêmes enjeux, la même soif, le même crampe au ventre des fois, la même chose que nous autres, que tout être humain. Donc, il était pleinement homme, mais c'est Dieu qui était là aussi en lui, pleinement Dieu. Dieu qui prend une forme humaine. Et ça, ça fait toute une différence. Il a été obéissant jusqu'à la mort. Lui, il était sans péché. Il nous a montré qu'est-ce que c'est une vie en se confiant en Dieu, en faisant confiance en Dieu, en s'appuyant sur Dieu seulement pour notre sécurité, notre valeur, notre joie, notre paix. Il était obéissant jusqu'à la mort de la croix. L'amour et la justice de Dieu. Souvenez, je vous ai dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Si Dieu était juste amour, tout le monde serait là. Les violeurs, les abuseurs, les meurtriers, tout le monde serait là. S'il serait juste, personne ne serait là. Mais Dieu nous montre son amour qui vient lui-même remplir la justice que lui demande, remplir lui-même ce qui est juste à faire et subir la mort que nous, on devrait subir à cause de nos choix, à cause de notre vie séparée de Dieu. Donc Dieu nous Il ne veut pas nous laisser ça, laisser là. Il veut nous tirer de là. Il nous tend la main. Il nous tend la main pour nous faire goûter à la vie, pour qu'on saisisse cette vie. Donc, la mort et la résurrection. La résurrection nous montre que sa mort, la mort est vaincue. Par la résurrection, il nous a ouvert un chemin qui nous donne accès à Dieu. Maintenant, tu veux goûter à cette vie. Ça passe par Jésus. Tu veux goûter à la paix. Ça passe par Jésus. Tu veux goûter à la joie. Ça passe par Jésus. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et ce qui nous appelle à vivre, c'est une vie par l'Esprit. Et on peut avoir cette vie qui est l'Esprit de Dieu en nous maintenant. Comme Jésus avait le même Esprit qui est en Jésus, le même Esprit qui est en Adam au début. Cet Esprit de Dieu qui est en Jésus, Dieu nous dit qu'on peut l'avoir. Il nous dit, venez à moi. Donc, ce que je fais, je pars de ma place et je m'en vais aux pieds de Jésus, dans mon cœur. Je lui dis, viens à moi. Par la foi, la confession et la repentance. On va reparler de ça tout à l'heure. Un pas de foi. Je crois que ce que tu as fait est juste. Que moi, mes solutions ne sont pas les bonnes. Je me détourne de ça et je me tourne vers toi. À ce moment-là, Dieu vient en moi et je reçois son esprit, cette vie de Dieu en moi et je deviens de même nature que Dieu. De même nature que Dieu. Mais on n'est pas tout seul. Il y a plusieurs personnes sur cette terre qui ont fait des choix. Plusieurs personnes ici qui ont fait des choix. C'est ce que la Bible appelle l'Église. Une communauté de croyants. Dieu nous appelle à venir à lui. Je ne sais pas où vous en êtes ce matin. Où vous êtes dans votre démarche, dans votre réflexion. Dieu invite les gens depuis des milliers d'années à venir à lui. Même avant la venue de Jésus-Christ, il annonçait qu'il était pour venir. Nous, on a le privilège de savoir qui est venu. On a le privilège de connaître la révélation complète de Dieu aujourd'hui. Il nous invite à venir à lui. Se confier en lui. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à le faire. C'est là qu'on était la semaine passée. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Aujourd'hui, on va continuer cette deuxième partie. J'aimerais prier avant de continuer. Seigneur, cette vie que tu nous donnes, c'est cette vie qui peut remplir tous nos besoins profonds, ce que notre cœur désire, ce que notre cœur cherche. Il n'y a pas d'autre place à aller qu'en toi. T'es la solution, Seigneur. Et à qui d'autre que celui qui nous a créés, qui nous a conçus, qui nous a désirés, qui nous a voulu, qu'on pourrait aller pour avoir les réponses. Et tu les as, et tu nous les as montrées, données, révélées ces réponses.
Seigneur, tu connais chacune des personnes qui est ici par cœur et tu désires cette relation intime avec chacune de ces personnes. Et Père, que chacun de nous puisse avoir le cœur ouvert, disposé à entendre ce que tu veux nous dire ce matin, parce que c'est ta parole, c'est ton message, c'est ta révélation qu'on veut entendre, qu'on va entendre. Donc, merci Seigneur d'ouvrir nos cœurs à recevoir ce que tu veux nous donner. Amen. La semaine passée, on a arrêté là. J'ai dit, on a cette vie. Parce que la plupart d'entre nous, je crois, je ne vous connais pas tous, mais on a fait ce pas à un moment donné de venir. Jésus, on a été touchés par la grâce de Dieu, par l'amour de Dieu, par l'œuvre de Dieu à la croix. On a dit, oui, viens dans ma vie. Et Dieu a fait de vous son enfant. Il n'y a plus de condamnation maintenant pour celui qui est en Jésus-Christ. Celui qui a Jésus a la vie. Celui qui n'a pas Jésus n'a pas la vie. Je vous écris cela afin que vous sachiez que vous avez la vie, vous qui avez Jésus-Christ en vous. L'Esprit de Dieu en vous. Et quand vous avez dit oui à Jésus, vous avez reçu cet Esprit-là. Et là, ma question, c'était, comment ça se fait que je vis encore tant d'insécurité, tant de problèmes d'estime, tant de peur, tant de crainte, de la misère à vivre la joie. Pourtant, j'ai cette vie-là. Mais vous savez, avec cette phrase-là qui vient saisir la vie éternelle, le verset n'est pas complet. Il commence par dire, combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle. Paul dit à Timothée, combat le bon combat. Combat le bon combat. On peut se battre pour beaucoup de choses en vie. Paul soulève qu'il y a un combat. Comment expérimenter la puissance de l'Évangile dans tous les jours, au quotidien? On peut mettre notre énergie pour se battre pour plein de choses dans notre vie, pour acquérir plein de choses, pour essayer de trouver cette sécurité, cette paix, de toutes sortes de manières. On peut combattre de plein de choses. Paul dit combat, le bon combat de la foi. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ça qu'on va regarder, comment saisir cette vie-là. Mais avant d'aller plus loin, je veux juste clarifier quelques petites choses pour comprendre l'intention de Dieu et comment ça se passe et c'est quoi ce salut-là. Donc, si on regarde l'intention de Dieu, c'était quoi l'intention de Dieu quand le désir de créer l'être humain a pris naissance dans son cœur? C'était quoi son intention? On l'a vu. Hein? Relation, c'est de créer l'homme à l'image de Dieu, être créer l'homme à son image, être en relation avec lui, parce que Dieu est un être relationnel. Donc, l'intention première de Dieu, c'est de créer l'être humain à son image. Maintenant, son intention aujourd'hui, c'est la même chose. C'est restaurer l'image de Dieu en chacun de nous. Le but premier de Dieu, ce n'est pas de nous sauver pour qu'on ait une place au ciel quand on va être mort. Ce n'est pas ça le but du salut que Dieu nous donne. Le but de Dieu, ce à quoi Dieu travaille dans ta vie, dans ma vie tous les jours, la raison d'être de ce salut, de ce sauver qu'il nous donne, c'est de restaurer l'image de Dieu dans ma vie tous les jours, à chaque jour, à chaque instant. C'est le message qui est communiqué d'un couvert à l'autre. C'est le message que les apôtres dans chacun des épîtres veulent communiquer. Cette image qui a été perdue, Dieu veut la restaurer. C'est ça la vie qu'il nous donne. Quand il dit « saisis la vie éternelle », c'est « saisis ça ». Laisse l'image de Dieu être restaurée dans ta vie. Et chacun des auteurs du Nouveau Testament nous parle de ça. Regardez ce qu'il dit à l'Église de Colosse. Il va dire, vous êtes revêtus de la nouvelle nature. Vous êtes des êtres nouveaux que Dieu renouvelle continuellement à son image. Il va dire aux Galates, il dit, mes petits-enfants, je souffre de nouveau pour vous. Et cela va durer jusqu'à ce que Christ soit pleinement formé en vous. Il va dire aux Romains, il dit, car Dieu vous a appelés. Il a aussi déclaré d'avance de vous rendre semblable à Jésus. Dieu, c'est son but de vous rendre semblable à Jésus, de restaurer l'image de Dieu en vous. Parce que plus que l'image de Dieu est restaurée en vous, plus vous allez expérimenter la paix, la joie et la sécurité, cette relation intime qui libère avec Dieu. Il va dire aux Corinthiens, l'Esprit nous transforme, il nous rend de plus en plus semblables à lui, avec une gloire toujours plus grande. Aux Éphésiens, il va dire, nous deviendrons tous ensemble des adultes dont le développement nous amènera à la stature parfaite de Christ. Dieu veut restaurer l'image de Dieu, c'est son but. Et c'est bon de savoir qu'est-ce que Dieu fait. C'est ça qu'il est en train de faire, dans ta vie, dans ma vie. C'est ça qu'il veut faire autour de nous, dans les gens qu'on côtoie. Dieu est à l'œuvre dans ta vie. Dieu nous dit, travaille dans le même sens que moi. saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Deuxième chose à clarifier, c'est le mot sauvé. Le mot sauvé, quand on voit le mot sauvé dans le Nouveau Testament ou dans la Bible, il y a trois dimensions à ce mot sauvé-là. Je l'ai parlé il n'y a pas longtemps quand je suis venu en octobre, au début octobre, je pense. Nous avons été sauvés, nous sommes en train d'être sauvés et nous serons sauvés. Donc, on a été sauvés de la conséquence du péché. Jésus a vaincu le péché. On est en train d'être sauvés. Saisis la vie éternelle. Approprie-toi ce salut-là. On est en train d'être sauvés chaque jour davantage, être restauré à l'image de Dieu. Dans notre quotidien, on est en train d'être sauvés. Puis un jour, on va être sauvés, libérés de la présence du péché. On va être dans la présence de Dieu où on va célébrer, libérés, totalement libérés. Mais en ce moment, on est en train d'être sauvés. Pensez à ces trois dimensions-là du mot « sauvé » quand on le lit dans la Bible, particulièrement dans le Nouveau Testament. Mais le mot « sauvé » aussi veut dire beaucoup de choses. C'est le mot « sozo » qui est utilisé en grec, qui est beaucoup plus large que juste... C'est pas juste, mais c'est aussi sauvé de la séparation avec Dieu, de cette incapacité de rentrer en présence de Dieu que Jésus-Christ nous a donné par sa mort et sa résurrection. Mais le mot « sauvé » est utilisé traduit parfois par « guéri ». Dieu nous a guéris, Dieu nous a libérés, Dieu nous a délivrés. OK? Le but de Dieu... restaurer l'image de Dieu en nous par son salut qui nous libère, qui nous délivre. Parce que maintenant, on peut rentrer dans la présence de Dieu. On est sauvé de cette séparation-là. Mais Dieu veut nous sauver, veut nous guérir, nous libérer. Ça va? OK, on va aller plus loin maintenant. Paul, dans tous les épîtres, explique ça. Pierre, dans son épître, explique ça. Jacques, dans son épître, explique ça. Tout le Nouveau Testament explique ça et il va plus loin. Paul va le dire d'une manière. Il va parler de trois types de personnes. Il va parler d'une première personne qui dit « La personne livrée à elle-même reçoit pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. À ses yeux, c'est pure folie, il est incapable de comprendre. » Là, il parle de la personne qui est ici, sans Dieu. Elle ne peut pas comprendre les choses de Dieu. C'est pas son monde, elle comprend pas, elle a pas l'Esprit de Dieu en elle, donc elle continue à chercher ici. Et la fin, c'est la ruine, la mort. Et là, Paul va parler d'un deuxième genre de personne, un deuxième type de personne. C'est la personne dirigée par l'Esprit. Au contraire, peut avoir un jugement sur tout, juste sur tout. Il reste lui-même, cette personne reste lui-même indépendante du jugement d'autrui. Qui connaît la pensée du Seigneur? Il va dire, nous, moi, je connais la pensée du Seigneur. Cette personne-là, est encore ici. Mais c'est ces personnes-là ici qui ont dit un jour, « Oui, Seigneur, viens dans ma vie. » Cette personne-là, elle a un jugement juste. Elle ne se trompe jamais. Elle a un jugement, un bon discernement dans ses choix, elle a un jugement juste. Dans ses relations, elle a juste relation, une bonne relation avec les autres. Elle a une compréhension des situations qui sont justes. Elle n'est pas affectée par ce que les autres vont dire. Parce qu'elle connaît son identité, elle connaît sa valeur. Elle expérimente sa joie et sa paix à cause de sa relation avec Dieu. Elle se sait aimée, elle se sait sécure. Mais là, je regarde ça, je dis, j'ai l'Esprit de Dieu, moi. Mais je ne vis pas ça. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je vis échec dans mes relations? Pourquoi je vis échec dans mon estime? Pourquoi je vis échec dans mon désir de marcher comme Dieu veut que je marche? Et là, Paul va parler d'un troisième type de personne. Il va dire, « Mais je n'ai pas pu vous parler comme à des personnes dirigées par l'Esprit. » Ces trois versets-là se suivent, OK? « Mais comme à des personnes dirigées par leur être naturel. » OK, c'est important ce qu'il est en train de dire là. Donc, ces personnes-là, c'est des personnes qui ont reçu l'Esprit. Ils sont ici, mais ils continuent pour leur sécurité, pour leur joie, leur paix, leur estime, à utiliser les mêmes moyens qu'ils ont toujours utilisés dans le passé. Vous savez, chacun de nous, aucune exception, tout au long de notre vie, on a développé des façons de penser, des patterns dans notre vie, des comportements, des réflexes, des solutions pour essayer de combler nos besoins profonds. Et cette personne-là que Paul parle ici, c'est des personnes qui ont reçu l'Esprit, qui ont été touchées, qui ont dit « Oui, Seigneur, viens dans ma vie. » Ils ont fait dans leur cœur ce pas d'aller là. Ils ont donné leur vie, ils ont reçu cette vie-là en Dieu. Mais ils continuent à puiser aux mêmes sources qu'ils ont toujours puisées, ce qu'ils ont toujours appris, ce qu'ils ont toujours connu. Puis ils n'expérimentent pas la paix.
il n'expérimente pas la joie, il n'expérimente pas la sécurité, il n'expérimente pas pleinement cette relation avec leur Dieu. Je vais vous donner un exemple. La chenille et le papillon. Pensez aux trois types de personnes que Paul décrit. Une chenille, OK, le premier type de personne, c'est une personne qui est l'être naturel, qui vit selon les ressources qu'il y a. Donc, c'est une chenille qui agit comme une chenille. Elle a le goût de manger le feuillage, le trou frais dans le haut des arbres, puis elle va monter tout le long sur le tronc, là, tranquillement, avec toute l'énergie que ça lui prend pour aller manger le feuillage en haut, pour se délecter de ce nouveau feuillage-là. Parce que la vie est là pour elle. Mais la deuxième personne, c'est celle que l'Esprit de Dieu en elle. C'est ce papillon, la chenille qui est devenue un papillon et qui agit comme un papillon. Elle n'a plus besoin de mettre toutes ses efforts pour grimper sur le tronc. Elle prend son envol parce qu'elle a ses ailes, elle les a les ailes. Puis elle s'en va manger le feuillage directement. Mais la troisième personne que Paul parle, cette personne qui vit en bas ici, qui est un papillon, elle a cette vie-là, mais qui continue à agir comme la vieille nature. C'est un papillon qui agit comme une chenille, qui pense qu'il doit travailler fort pour devenir un papillon. Un jour, je vais être un papillon. Un jour, je vais être comme Dieu veut que je sois. Un jour, je vais l'avoir, cette vie-là. Un jour, je vais marcher dans la victoire. Ce papillon-là qui est là, elle a ses ailes, mais elle continue à marcher sur le long du tronc en espérant d'atteindre le sommet pour manger ce feuillage-là qui va la nourrir. Elle est déjà un papillon. Tu lui dis, « Hey, regarde dans ton dos. Envole-toi. Saisis la liberté. Saisis la vie à laquelle tu as été appelé. » Paul va dire, Jésus-Christ nous a libérés pour que nous soyons vraiment libres. Tenez bon et ne vous laissez pas de nouveau réduire en esclavage. On a parlé d'esclaves tout à l'heure, notre frère a parlé de ça. Et c'est les mêmes exemples. Un esclave qui agit comme un esclave, la deuxième personne, c'est une personne libérée qui agit en personne libre. La troisième, c'est une personne libérée qui agit comme si c'était un esclave, mais je dois faire tout ce qu'il faut pour un jour avoir ma liberté. Saisis la vie éternelle. Saisis la vie éternelle. On continue à vivre, parce que c'est toujours ça qu'on a appris, et c'est nos réflexes. Un jour, j'avais un mal de dents sur le côté droit. Et je m'étais habitué, j'ai traîné ça, ça faisait mal quand je marchais là, fait que je me suis habitué à marcher l'autre côté. Et ça a duré des mois. À un moment donné, c'était trop douloureux, j'ai été faire voir un dentiste, il m'a arrangé ça. Et mon réflexe, c'était quoi? C'est de continuer à manger ce côté-là. Ça faisait des mois que je m'étais habitué à marcher de ce côté-là. Et il a fallu que je me dise, « Hey, je suis guéri. » Je peux marcher ce côté-là maintenant. Je peux. J'ai cette vie maintenant en moi. Fait qu'il ne dit pas que ces gens-là n'ont pas l'Esprit de Dieu, mais vous vivez comme si vous ne l'avez pas. Mais vous vivez comme des personnes qui ont encore juste ça ici comme ressource. Et vous savez, chaque épître adresse ce sujet-là. Quelques exemples. Je vous le donne pour qu'on saisisse bien l'ensemble du message que Dieu nous donne pour vivre la liberté. Il va dire, Pierre va dire comme ça, « Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas au désir que vous aviez autrefois dans l'ignorance. Ne faites pas comme quand vous ne connaissiez pas Dieu, la solution de Dieu. Ne vous conformez pas, ça veut dire ne vous laissez pas modeler, façonner. Ne laissez pas les façons de vivre ici façonner qui vous allez devenir. Façonner votre façon de vivre pour avoir la liberté. » Mais saisissez la vie éternelle. Il va dire ici, je passe des pages. En effet, ça c'est Jacques qui dit ça comme ça. C'est intéressant, Jacques. Il dit, en effet, de même que votre être sans le souffle de vie est mort, de même la foi sans les actes est morte. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit exactement la même chose. Il dit, vous savez, vous êtes nus à Jésus-Christ par la foi. Et ça vous a amené la vie. Sans la foi, le souffle de vie n'existe pas. Votre être sans le souffle de vie ne peut pas être en relation avec Dieu. Mais il dit de même, la foi sans les actes est morte. À quoi ça vous sert de dire, oui, je crois en Jésus, mais vous vivez encore de la même manière qu'avant. En vous appuyant sur vos ressources, dans votre nature humaine qu'on a toujours développée dans notre vie, vous savez, cette expression-là qu'on connaît tellement au Québec, moi, je suis croyant, mais je ne pratique pas, mais ça n'existe pas. C'est que comme moi, je dirais, je suis sportif, mais je ne pratique pas. Tu n'es pas un sportif. Tu aimes le sport, mais tu n'es pas un sportif. Ou moi, je suis un fumeur, mais je ne pratique pas. Non, tu n'es plus fumeur. Mais là, ici, c'est comme si quelqu'un disait, là, écoute, j'ai une solution pour ta vie. Tu es malade d'une grave maladie, et ça, c'est la solution, elle est là. Et puis lui dit, oui, oui, je le crois, mais j'en tiens pas compte. Je le crois, mais je pratique pas. À quoi ça sert? Jacques le dit comme ça, à quoi ça sert de dire j'ai la foi si je continue à puiser dans ma vie ici, dans les moyens que j'ai toujours utilisés? Au Galates, il va dire, autrefois, vous ne connaissiez pas Dieu, vous étiez esclaves de Dieu, qui n'en sont pas en réalité. Mais maintenant que vous connaissez Dieu, comment est-il possible que vous retourniez à ces faux dieux? Voyez-vous que toute la Bible adresse ça? Parce que c'est la tendance humaine. C'est notre tendance à nous. C'est toujours ce qu'on a appris à faire. C'est toujours en ça qu'on s'est confié. Il y a des faux dieux ici, des faux sauveurs. On s'est appuyé sur des faux sauveurs pour espérer, vivre, combler ce besoin de nos cœurs. Paul, en parlant de lui-même, il va dire, je regarde tout mon pedigree. Son éducation, il a été eu comme mentor, Gamaliel. Il dit, je regarde tout ça comme de la boue, afin de saisir cette vie-là que j'ai en Jésus-Christ, être uni à Christ. Paul dit la même chose pour sa propre vie. Est-ce que toutes ces études, puis les gens qui ont investi dans sa vie, c'est pas bon? Non. Mais si je mets, parce qu'il mettait sa valeur dans ce qu'il nous dit. Mais il dit maintenant, non. À côté de ce que Jésus a à m'offrir, ça c'est comme la boue. Jésus a dit la même chose. Il dit, le royaume de Dieu est comme quelqu'un qui trouve une perle d'une grande valeur. Qu'est-ce qu'il fait? Il vend tout ce qu'il a. Il renonce à tout sur quoi il s'est appuyé dans le passé pour sa vie, pour prendre cette perle qui est l'œuvre de la croix en Jésus-Christ, qui nous restaure pour vivre cette vie et cette restauration dans ma vie avec Dieu. Colossiens va dire, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Vous marchiez ainsi autrefois, qu'il va dire dans Colossiens 3, mais maintenant, ça ne doit plus être comme ça. Voyez-vous que c'est là partout? Notre tendance humaine qui nous empêche, cette tendance humaine nous empêche de vivre la vie qu'on est appelé à vivre, de vivre la liberté, la joie, la paix profonde qu'on aspire toutes, le repos, le vrai repos. Prenez garde que personne ne vous séduise par les arguments qui se fondent sur les traditions de la nature humaine et non sur Christ. Vous avez tout pleinement en lui, lui qui domine toute autorité et tout pouvoir. OK, là, on rentre, à mon avis, dans du solide. Pas que ce n'était pas solide avant. Mais là, on rentre dans qu'est-ce qui nous empêche de vivre. Paul dit, vous avez tout pleinement. Il s'adresse aux Colossiens, mais il s'adresse à chacun de nous autres aussi. Vous avez tout pleinement en Christ. Je vous ai donné l'exemple. Hein. Je pense, on prend un verre d'eau, là, je l'ai emmené un verre d'eau avec un pichet, puis je le remplis, là, jusqu'à temps que ça fasse une balloune par-dessus, là. T'sais, on rajoute une goutte, ça déborde. On ne peut pas, ça ne sert à rien à rajouter. Ça ne rentre pas plus. Et Paul dit aux Colossiens, vous avez tout pleinement en Christ. Lui, de toute façon, il est au-dessus de toutes les autres choses que vous pourriez rajouter. Il est au-dessus de tout ça. Donc, n'allez pas chercher ailleurs. Tout pleinement. Ce qui se passait, c'est que les Colossiens, l'église de Colosse, croyaient en Jésus. Jésus était leur sauveur. Jésus est mort sur la croix pour eux autres. Merci Seigneur, ils célébraient Jésus. Mais c'était Jésus plus quelque chose. Jésus plus quelque chose pour être accepté de Dieu. Pour les Colossiens, c'était Jésus, oui, oui c'est bon, c'est correct, c'est beau. Mais il faut respecter les fêtes. Il faut respecter les traditions pour être accepté de Dieu. Pour l'Église des Galates, eux autres, c'est oui, Jésus, c'est bon, mais ça prend aussi la circoncision. C'est ça la marque du peuple de Dieu. Pour d'autres, c'était autre chose. Est-ce que ces choses-là étaient mal? Pas en soi. Mais on a tout pleinement en Dieu. Dieu nous accepte, nous accueille. Non pas sur la base de ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas, mais seulement sur la base de ce que Jésus a fait. Uniquement à cause de ce que Jésus a accompli à la croix. Peu importe si vous marchez dans la victoire ou dans l'échec, quand Dieu vous regarde, c'est Jésus qui voit. Il nous invite à faire la même chose. Peu importe ce que vous faites, parce que ce n'est pas sur la base de ce que vous faites, Dieu regarde à rien d'autre que Jésus à la croix pour vous. Il nous demande de faire la même chose. C'est Jésus qui vous rend juste aux yeux de Dieu. Ajoutez quoi que ce soit, ça vient tout gâcher. Quelqu'un a dit un jour, qui vivait au 16e siècle, il dit, ajoutez quoi que ce soit à Jésus-Christ, et Jésus cesse d'être le Christ pour vous. C'est quelque chose. Ajoutez quoi que ce soit à Jésus et vous venez tout gâcher. Vous ne saisissez pas cette vie-là, vous ajoutez quand on a tout pleinement en Jésus. Donc, pour vous ce matin, posez-vous la question. Vous voulez vivre la vie éternelle? Vous voulez vivre, saisir cette vie, cette paix profonde, cette joie? Jésus plus quoi dans votre vie qui est profondément dans votre cœur que vous croyez que Dieu va vous accepter? Votre marche avec Dieu? Les offrandes que vous donnez, de venir à l'église à toutes les semaines, de lire votre Bible, d'être une bonne personne, d'aider votre voisin, d'aider l'orphelin et la veuve, de faire des projets à l'extérieur. Jésus plus quoi dans votre cœur qui dit, « Ah, là, Dieu m'aime. » Il n'y a rien que vous pouvez faire qui va faire grandir l'amour de Dieu pour vous. Il vous l'a montré à la croix, à quel point vous étiez important, que vous aviez de la valeur. Et maintenant, si je dirais, « Jésus plus quoi ?» qui va me donner ma paix et ma joie. Jésus plus, si je suis en contrôle des choses autour de moi. Jésus plus, si les situations se passent bien autour de moi. Jésus plus, si ma famille voit bien, si ma famille est unie. Jésus plus si je n'ai pas d'épreuves. Là, je vais être en paix, là, je vais vivre la joie. On a tout pleinement en Jésus. C'est quoi dans votre vie? Jésus plus quoi pour votre paix et votre joie? C'est quoi les habitudes qu'on a développées dans notre vie pour cette paix et cette joie-là, qui ne sont pas nécessairement des mauvaises choses, mais c'est des choses qui nous trompent, des faux dieux, des faux sauveurs. Jésus plus quoi pour mon estime, ma valeur? Jésus plus quoi pour mon identité, pour ma sécurité, mon besoin d'être aimé? Jésus plus quoi que les autres m'admirent? Jésus plus quoi pour ma sécurité? Que mon compte en banque, mon garde-manger est plein, que je suis en contrôle de tout ce qu'il faut. Là, je me sens sécure, je me sens à l'aise, je peux avancer, j'ai l'esprit libre. Jésus plus quoi? On a tout pleinement en Jésus. Ces choses-là ici, cette chose-là m'empêche de saisir la vie éternelle, m'empêche de goûter à la paix et la joie que Dieu promet, m'empêche d'être la personne que je veux dans le fond de mon cœur être et j'aspire à devenir, sauf que j'ai un Jésus plus quelque chose. La Bible appelle ça des faux dieux, des idoles. Des idoles. Combat le bon combat, Paul dit. Enlève ces choses-là pour réaliser que tu as tout pleinement en Jésus. Je vais prendre... Le temps avance très vite. Je vais vous parler des faux dieux, des idoles. C'est un concept qui revient tout le temps dans la Bible, partout, Ancien Nouveau Testament. Et des idoles, ce n'est pas quelque chose qui est les preuves primitives, les peuples primitifs dans l'ancien temps qui avaient un statue de bois ou de pierre en laquelle on se confiait. Non, des idoles, c'est des choses qui prennent la place de Dieu. Pas des mauvaises choses nécessairement, mais des choses en lesquelles on met notre espoir pour notre futur. Des choses qui vont prendre trop de place. C'est central, ça me prend ça, c'est essentiel à ma vie pour pouvoir goûter ça. Tout peut devenir une idole. Ça dépend de la place qu'on lui donne. Vous savez, une idole, ça peut être une bonne chose. Si on perd une bonne chose, on est déçu. Si on perd une idole, on est à terre. On est démotivé. On est déprimé. Notre paix, notre joie s'évanouit. Vous savez, les marques qu'une idole est affectée dans notre vie, ça va toujours être l'anxiété, l'angoisse, l'amertume, la colère, le découragement, l'excès. Les idoles n'ont aucun pouvoir sur nous, sauf celui qu'on leur donne. Et aussi, la Bible va dire que les idoles ont beaucoup de pouvoir sur nous parce qu'ils nous rendent esclaves, prisonniers, ils veulent être nourris constamment. Si on a des idoles, on se confie dans des idoles dans notre vie, c'est parce qu'on croit que ces idoles-là vont être notre sauveur. Un jour, une des grandes idoles dans ma vie, je vous l'ai déjà conté il y a quelques années de ça, c'était un besoin d'approbation. Quand j'étais très jeune, j'ai appris assez rapidement que les gens, ma famille entre autres, et j'étais accueilli, aimé, j'avais ma place si je performais, si je me comportais bien. J'ai commencé à croire que l'amour des autres, mon sentiment de réussite, dépendait de mes performances pour être accueilli des autres. Et là, une idole est née dans ma vie. Et lorsque j'étais jeune, j'avais 12 ans, j'avais une longue ride de vélo que je voulais faire avec mes cousins qui étaient tous beaucoup plus vieux que moi. Et mes tantes disaient, si Patrice y va, j'étais assez, beaucoup d'initiative, beaucoup fonceur. Ils disaient, si Patrice y va, qui est beaucoup plus jeune, c'est correct, vous pouvez y aller. Ça nourrissait mon idole. OK, je suis correct. J'ai besoin que cette idole-là, parce que mon acceptation, mon estime, ma valeur dépendait de cette approbation-là des autres. Et cette idole-là était nourrie. J'étais en affaires, mais l'entreprise fonctionnait très bien. Et les gens me le disaient. Et ça nourrissait mon idole. Oui, je performe, je suis aimé, je suis apprécié, je suis valorisé par les autres. Et à un moment donné, j'ai frappé un mur. Un épuisement. Je ne peux pas maintenir le rythme. L'idole est en train de me mettre à terre, est en train de me détruire. Elle me rendait esclave. J'étais croyant. Mais c'était Jésus plus l'approbation des autres. Jésus plus la valorisation des autres. Jésus plus, plus, plus. Quand j'ai saisi la profondeur du message de l'Évangile, de ces idoles-là qu'on parle, j'ai dit, Seigneur, je renonce à ça. T'es ma seule solution. Est-ce que l'idole est encore là? Oui. Elle pop tout le temps, puis elle essaye de me convaincre. « Hey, c'est moi qui vais te combler là-dedans. » Mais je la connais maintenant. Je dis non, ôte-toi de là, ôte-toi de ma vie. Je ne parle pas ici de démons ou d'entités démoniaques. Je parle des affections de nos cœurs sur lesquelles on s'est toujours appuyé toute notre vie parce qu'on n'avait pas d'autre solution. Ils ne sont pas partis d'un coup. Et Dieu nous appelle à aller prendre conscience de ces choses-là. Donc, c'est important de discerner les idoles, de comprendre qui ils sont. David, un homme selon le cœur de Dieu dans l'Ancien Testament, il dit, donc comment reconnaître des idoles? David dit, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, examine mes pensées et vois mes soucis. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie qui mène à la vie. » Donc, comment reconnaître ces idoles-là? Demandez à Dieu de vous révéler ces idoles-là. Et il y a peut-être quelques questions qu'on peut se poser aussi. Comme par exemple, qu'est-ce qui, si je devais échouer ou si je devais le perdre, m'enlèverait tout désir de vivre? Quelle est cette chose-là qui me mettrait à terre? Une autre question, quel est mon pire cauchemar qui pourrait arriver? Qu'est-ce qui m'inquiète le plus? Ou encore, sur quoi je m'appuie ou quoi me rassure lorsque les choses tournent mal ou deviennent difficiles? Ça peut vous aider à discerner une idole et lui dire, non, je n'ai plus de toi dans ma vie. Jésus-Christ seul dans ma vie. Galates, Paul, au travers de Galates, nous donne d'autres moyens. Il va nous parler du fruit que l'Esprit va produire dans notre vie quand l'Esprit agit en nous. Et vous les connaissez, ces textes-là, hein? Il dit, le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Ça, quand l'Esprit est dans notre vie et qu'on le suit, c'est ça qu'on expérimente. C'est ça qu'on expérimente. Mais Paul va dire aussi, par contre, il y a les fruits de notre être naturel. Il va dire, voici ce que produit l'homme livré à lui-même, l'être naturel. L'immoralité, les pratiques dégradantes, la débauche, l'adoration des idoles, la magie, la haine, les querelles, la jalousie, les excès de colère, les rivalités, les dissensions, les divisions, l'envie, l'ivrognerie, les dépendances et les autres choses de ce genre. C'est pas obligé que ça soit tout ça, hein? Mais là, Paul nous dit, si vous vivez une de ces choses-là, parce qu'il dit les choses dans ce genre, donc on pourrait continuer, la haine, la rivalité, l'anxiété, la panique, l'angoisse, l'inquiétude, la peur, la crainte, l'amertume. Ça nous montre que, oups, il y a une idole qui agit dans ma vie en ce moment. Ce n'est pas en Dieu que je m'appuie. Parce que c'est toujours à propos de ce qu'on croit. Toujours à propos de ce qu'on croit. Je vais vous donner des exemples d'idoles, mais le temps court trop vite. Mais ça peut être l'approbation, ça peut être le confort, ça peut être l'aide, le service. Une idole dans ma vie, c'est que je me sens valorisé, je me sens important, je me sens quelqu'un quand les gens ont besoin de moi. Est-ce que d'aider les autres, c'est mal? Non. Mais si je sens que ma valeur dépend de ça, mon identité dépend de ça, ça devient un problème. Parce que le jour où je ne l'aurai pas, je vais être à terre. Ça pourrait être la réussite, ça peut être la religion. Si je performe bien dans les demandes de ma religion, dans mes demandes de la religion, si je fais juste les bonnes choses, et puis là, je vais être correct. Ça peut être la famille. Si ma famille est unie, si ma famille marche droite, si ma famille marche avec Dieu, ça peut être une idole. Et le jour que ça n'arrive pas, je suis à terre. Est-ce que c'est normal que je sois triste si mes enfants tournent mal? Bien sûr. Mais si ma valeur, mon identité dépend de ça, il y a quelque chose que je ne trouverai pas la paix. Et la joie que Dieu veut me donner malgré les épreuves et l'argent, évidemment. L'argent peut prendre plusieurs formes. Donc, comment se débarrasser de nos idoles? On arrive à la fin. Paul dit, « Je vous rappelle l'évangile que je vous ai annoncé, c'est aussi par lui que vous êtes sauvés, que vous êtes guéris, libérés. » OK, on est en train d'être sauvés. On saisit le salut à chaque jour. C'est par elle, par cet évangile-là que vous êtes guéris, libérés, délivrés au quotidien. Si vous le retenez dans les termes que je vous l'ai annoncé, autrement, votre foi aurait été inutile. Il va dire aussi, et là on parle de foi, tout part de ce que vous croyez. Ici, dans le monde en bas ici, c'est qu'on croyait, on a tous la foi. On croit que ces choses-là vont combler notre besoin. Là, il dit, comment vous avez reçu Jésus? Par la foi, il va dire aussi ici, « Ainsi donc, tout comme vous avez accueilli le Seigneur Jésus, marchez en lui, soyez enracinés et fondés en lui, affermis dans la foi. » Comment vous avez reçu Jésus? Par la foi. La foi est le fondement de tous. Vous savez, on a lu un texte la semaine passée qui était dans Éphésiens 2, qui dit, « C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. » Cela ne vient pas de vous, ça vient de Dieu. Mais ce texte-là s'adresse pas aux non-croyants, on l'utilise pour les non-croyants, mais ça s'adresse à des croyants comme nous. C'est par la foi que vous allez expérimenter la vie. Ça ne vient pas de vous. Ce n'est pas les choses que vous allez faire, c'est les choses que vous allez croire. Ce n'est pas ce que vous faites. Jamais ce que vous faites, c'est ce que vous croyez qui va aboutir à faire quelque chose dans votre vie, qui va produire un fruit. C'est par la foi. Donc, on a dit, c'est par la foi. La deuxième étape, si vous vous en souvenez, c'est la confession et la repentance. La confession, c'est dire, « Oui, Seigneur. » C'est vrai, j'ai cette idole-là dans ma vie. C'est vrai, je la reconnais. Et je te le confesse, je m'appuyais là-dessus. Mais maintenant, je veux m'appuyer sur toi, Jésus-Christ, qui est le seul. Cette idole-là n'est pas morte pour moi, la croix. Cette idole-là ne peut pas donner ce qu'elle prétend me donner. Mais toi, tu es mort pour moi. Toi, tu m'apportes la vie. Toi, tu es la vie. Toi, tu as la puissance pour produire en moi. Toi, tu as cette capacité-là. Et c'est en toi. C'est ça, la confession. Confesser cette idole, confesser le péché, confesser qui est Jésus-Christ. Et la repentance, c'est pas de se morfondre. La repentance, ce n'est pas d'être pénitent et puis s'imposer toutes sortes de maltraitances pour pouvoir accepter de Dieu. Non, la repentance, c'est de changer notre façon de penser. Je croyais ça et maintenant je me tourne vers toi et je crois ça. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés dans votre façon de penser pour pouvoir saisir la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Il va dire aussi, dans le même Épître aux Romains, « Nous renversons les faux raisonnements qui nous empêchent de saisir la vie et on amène toute pensée captive à Christ. » Parce que nos pensées forment ce qu'on croit. J'ai une pensée qui me dit, « T'es encore dans ces idoles-là. T'es un bon à rien, Patrice. T'es un pourri. » Oups, cette pensée-là, je l'arrête. Je la limite. Puis je l'amène. « Qu'est-ce que Jésus dit? Non, t'es mon enfant bien-aimé. Je t'aime tellement. J'ai donné ma vie pour toi. Et t'as tout en moi maintenant. » Donc, la repentance, ce n'est pas se morfondre, se culpabiliser, c'est changer, changer notre allégeance. J'ai lu une histoire à mon année, c'est une femme qui avait beaucoup, qui recherchait constamment, qui avait des troubles affectifs. Puis elle cherchait tout le temps à combler son besoin d'affection masculine en allant chez tous les hommes qui étaient prêts à lui en offrir. Et elle souffrait. Est venue à connaître Dieu. Puis à un moment donné, elle a rencontré une conseillère, et puis la conseillère lui a fait réaliser ce qu'elle cherchait, son besoin d'affection. Elle cherchait chez les hommes, c'était un moyen de combler son besoin d'affection. Et la conseillère lui a dit, tu devrais aller étudier, aller chercher un diplôme pour avoir une carrière, puis tu vas te sentir bien. Fait que la femme a dit, écoute, il y a quelque chose qui ne marche pas. Donc tu dis, mon besoin d'estime et d'affection que je cherchais chez les hommes, maintenant tu dis d'aller me chercher ça dans une carrière. Donc je change cette idole par cette idole. Ça ne libère pas. Donc, la repentance qui n'amène pas à se tourner vers Jésus-Christ ne libère pas. La repentance va toujours nous emmener à Jésus-Christ, à trouver nos solutions en Jésus-Christ. La confession et la repentance, ce n'est pas dans le but d'être accepté de Dieu, on est accepté de Dieu. C'est dans le but de s'approprier cette vie-là. OK. Et finir, oups, je ne vais pas le sauter, celui-là, parce qu'il est important, là. La louange et la reconnaissance. Exprimez votre louange à Dieu, votre reconnaissance. Célébrez qui est Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait pour vous? Voyez-vous à quel point Dieu vous a aimé. Il vous a donné toute solution. Je vois que le temps avance énormément. Je vois les yeux baisser tranquillement fatigués. Fait que je vais terminer. Ces croyants-là sont là et c'est l'Église. L'Église est là pour qu'on supporte les uns les autres dans ces vérités qui sont en Jésus. Les vérités qui sont uniquement en Jésus. Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Tout le reste va suivre. Nulle part ailleurs. Dieu a tout fait pour vous. Dieu a tout fait pour vous. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé, c'est ce que Dieu veut. J'espère que je n'ai pas compliqué les choses. Ce que je voulais qu'on voit, qu'on saisisse ensemble comment le message de la Bible est le même d'un couvert à l'autre. On retourne à ces façons de faire qu'on a tout le temps eues et Dieu nous appelle à renoncer à ça pour saisir la vie parce que Dieu veut restaurer cette image de Dieu en nous qui va nous permettre d'expérimenter toutes les profondeurs de cette vie éternelle-là. Et j'aimerais prier pendant que l'église, l'équipe de musique, de louange avance et j'aimerais vous inviter à faire cette réflexion-là dans vos cœurs. Seigneur, tu connais chacune des personnes par cœur ici. Tu vois nos combats, tu vois nos victoires, mais tu vois ces endroits dans nos vies où tu prends la place, une place qui ne devrait être pas prise par rien d'autre. Seigneur, que dans les heures, les minutes, les heures, les jours, les semaines qui viennent, que tu puisses nous révéler ces endroits dans nos vies où on a besoin de venir à toi et de renoncer à cette vaine manière de vivre qu'on avait autrefois avant de te connaître. Et s'il y a des gens ici qui ne te connaissent pas encore, que tu puisses, Seigneur, continuer à les interpeller, qu'ils puissent voir la beauté de l'amour, la grandeur de l'amour que tu as pour eux, qu'ils puissent faire ce pas de venir à toi et recevoir ton esprit, ta vie en eux, et qu'ils puissent commencer à marcher en communauté avec l'Église pour s'entraider les uns les autres à saisir cette vie-là. On a besoin les uns les autres. Et je te loue pour chacune des personnes qui sont ici maintenant. Et je te célèbre, je te loue pour cette vie que tu nous as donnée. Amen. Vous savez, je veux juste terminer pendant que l'équipe se prépare. J'entends des paroles des fois où on prie, « Oh Seigneur, donne-moi cette paix. Donne-moi cette vie. Oh Seigneur, donne-moi la puissance qu'il faut. » J'entends Dieu dire, « Mais je te l'ai donné. Ils sont là. Saisis la vie éternelle. Regarde dans ta vie, qu'est-ce qui t'empêche de la saisir? Amène-les à ma croix. Rappelle-toi que je suis mort pour ça. De tout pleinement en toi, vis cette vie pour laquelle tu as été appelé. Amen.